Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Il est presque 19h, vous êtes toujours dans Restons Courtois, l'émission de débat de Radio Courtoisie. Vous savez qu'à 19h, c'est la chronique de Marc Obregon qui généralement nous parle de cinéma. Et là, bah, il parle de cinéma, et il parle d'un film qui est sorti la semaine dernière, un film américain qui s'appelle Projet Dernière Chance. Alors, oui, Arthur, de quoi on parle?
Et si le film le plus chrétien du mois n'était pas l'honnête Compostelle qui sort aujourd'hui en salle, mais bien un blockbuster américain de 200 millions de dollars avec la superstar aux yeux de chien battu Ryan Gosling. Je vous le donne dans le mille, c'est sûrement bien le cas. Il faut dire que si dans l'espace, comme dit l'adage, personne ne vous entend crier, on vous entend en revanche souvent bel et bien prier. Projet Dernière Chance, de Phil Lord et Chris Miller, se base sur un argument ultra rebattu. Un homme se réveille amnésique à bord d'un vaisseau spatial qui dérive aux confins de l'univers, vers l'étoile Tau Ceti. Alors que ses souvenirs remontent peu à peu à la surface, il découvre qu'il fait partie d'une mission scientifique destinée à venir à bout des astrophages, des particules affamées qui dévorent à petit feu les soleils et menacent donc notre bonne vieille Terre. Vous me direz, voilà qui sent un plané l'hommage au cinéma bourrin des années 90, d'Armageddon à Sunshine. Alors oui et non. Si les deux réalisateurs venus de l'animation sont surtout connus pour avoir été virés par Disney en plein tournage de Han Solo, Projet Dernière Chance, dont le titre original est Projet Hail Mary, ce qui a tout de même plus de gueule, présente une certaine patine qui rend effectivement hommage aux grands films de SF des années 80-90, avec un mélange bien à lui de respect et d'inventivité. Déjà, un respect pour des effets spéciaux en dur, pour une lumière chamarrée qui refuse les ambiances monochromes des films de SF à la mode, et un refus total du cynisme, ou encore des références méta, même si Spielberg est abondamment cité par les auteurs, ce n'est jamais pour faire des malins.
Mais alors, quel est le vrai sujet du film?
Eh bien, malgré son budget faramineux, ce film est surtout un grand film intimiste, car au fin fond de l'univers, notre héros, qui porte le patronyme de Grâce, excusez du peu, fera la rencontre d'une entité extraterrestre avec qui il se liera d'amitié, et qui a la forme peu ou prou d'un simple rocher. Alors, on pense immédiatement à un autre grand film de solitude, Seul au monde, dans lequel Tom Hanks, incarnant une sorte de Robinson Crusoe moderne, s'inventait un confident dans un vieux ballon de volley-ball pour ne pas succomber à la folie. Alors ici, forcément, la métaphore est un peu plus littérale, puisque notre rocher à pattes est doué de paroles et de conscience. Et pourtant, on peut voir le film tout entier comme une sorte d'hallucination d'un mort, ou comme la tentative de rédemption d'un homme dont on apprend à la fin qu'il a initialement refusé de sauver la planète. Alors, faute de sauver la Terre, pourquoi ne pas risquer sa vie pour sauver un rocher parlant? C'est la grande question du film, aussi malicieuse que pénétrante. En fait, comme dans tous les grands films de solitude spatiale, Projet Dernière Chance part du principe que l'espace n'est pas grand-chose, sinon le miroir tendu de l'inconscient, une sorte de principe jungien dans lequel s'agglomère tout l'impensé collectif. Dans cette optique, comme dans 2001, Interstellar ou encore le trop oublié et magnifique Contact de Robert Zemeckis, la conquête de l'espace n'est jamais qu'une tentative pour l'individu de comprendre enfin le sens du libre-arbitre. Et donc, sa vocation chrétienne.
Vocation chrétienne, carrément. Mais c'est-à-dire?
Souvenez-vous de la belle métaphore de Simone Veil, dans Le Pesanteur et la Grâce, qui compare la divinité à un gaz. Elle nous dit une divinité païenne, choisie par essence d'exercer tout le pouvoir dont elle dispose. Elle remplirait donc toute une pièce. En revanche, le dieu des chrétiens, au contraire, a choisi de ne pas remplir toute la pièce. Il a même choisi de se retirer. C'est dans ce retrait qu'apparut l'âme humaine, et sans doute même le cosmos. Ainsi, voir la création divine, non comme une addition, mais bien comme une soustraction, c'est sans doute toute la beauté de ce qui fait l'esprit chrétien. Et toute la beauté, quelque part, de ces films de science-fiction américains, où les héros solitaires, confrontés aux abîmes spatiaux, ne font jamais qu'expérimenter eux aussi ce qui reste de l'homme en dépit du collectif. Et ce qui reste de l'homme, son plus petit facteur commun, c'est bien sa capacité à se retirer également. Sa capacité justement à ne pas remplir tout l'espace, qu'il soit mental ou cosmique.
Merci Marc Obregon, Nicolas Faguer, vous avez partagé l'avis de Marc Obregon, la création divine, il faut la voir non pas comme le fruit d'une addition, mais d'une soustraction. C'est osé quand même.
C'est osé.
Hein ? Revenons à Charles Péguy. Je rappelle votre livre, Péguy, un cœur qui a tant battu. Je ne vais pas me tromper sur le titre. Alors, Péguy est peut-être l'écrivain le plus compliqué à classer dans une étagère, catholique, socialiste, antimoderne, révolutionnaire, patriote. Bref, tous les courants le traversent. Alors commençons peut-être par les cahiers de la quinzaine, pour essayer de comprendre un peu ce mystère. Pourquoi les fondent-ils et quel est l'objectif?
Alors la fondation date de 1900, voilà, le siècle commence avec la création des cahiers de la quinzaine. Alors, Peggy, d'abord, il faut savoir qu'il a tenté l'agrégation, qu'il a échoué. Voilà, ce qui est un signe d'encouragement pour... de consolation pour beaucoup de gens qui échouent. Voilà, qui échouent. D'ailleurs, Alain Fournier n'avait pas été admis à l'école normale supérieure. Donc, voilà, ils étaient amis, donc ils étaient amis d'échec. Donc, il échoue et il a le désir de fonder une librairie. D'abord, il en fonde une première avec des amis socialistes. Et elle se trouve au coin de la rue de la Sorbonne, rue Cujas. Pour ceux qui voudraient aller, il y a une plaque qui a été mise par l'Amitié Peggy il y a quelques années. Maintenant, il y a un grec. Et d'ailleurs, des crêpes excellentes. Voilà, mais donc ça, c'était le lieu, la première. Mais il a été viré, en fait, par les membres de la société, parce qu'il était, en fond, trop libertaire. Voilà, il était... C'est le moment où le Parti Socialiste s'unifie et contrôle la presse. Et Guy dit tout, mais pas ça. Voilà, pas de contrôle de la presse. Bon. Il a des conflits avec les autres membres. Et alors, il décide de fonder sa propre revue, ça va être donc les Cahiers de la Quinzaine, parce qu'ils seront publiés tous les 15 jours. Et l'idée, c'est d'informer les Parisiens, surtout des gens de province, de l'évolution du dreyfusisme. Qu'en est-il des affaires à Paris en lien avec Dreyfus? Ça, c'est le projet initial, mais très vite, beaucoup de choses s'ajoutent. Il n'est pas seul, il est un peu comme le garant des libertés dans les Cahiers de la Quinzaine. Il a bien sûr sa ligne, mais laisse à chacun la liberté d'écrire. Donc il y en a qui écrivent de politique, il y en a qui font des reportages, par exemple, ça peut être sur les colonies, sur les Juifs en Arménie, sur la Russie. Il y a des écrivains comme Romain Rolland, qui lui est lancé par Peggy, son Jean-Christophe est publié dans les Cahiers de la Quinzaine. Donc, très vite, cette revue devient une sorte de lieu d'ébullition, de réflexion dans plein de domaines. Mais c'est quand même dans une filiation dreyfusiste. Mais au fil des années, bon, Peggy aura son itinéraire personnel, mais toujours, il se dit garant des libertés. Voilà, il n'interdit à personne d'écrire ce qu'il a à écrire. Il n'a pas une ligne. Voilà. Et d'ailleurs, il dit une bonne revue doit toujours fâcher, je crois qu'il dit un cinquième de son lectorat. Oui. Mais il faut que ce soit jamais le même, sinon voilà, il faut que ça tourne.
L'actionnaire n'est pas content.
Voilà. Et sa revue était aux 8 rue de la Sorbonne. Aujourd'hui, on peut y aller encore, on voit la plaque. Pendant longtemps, il y avait une librairie rue de la Sorbonne. Maintenant, il y a un petit café japonais où on peut entrer. Il y en a beaucoup qui se plaignent de cette dégradation de la librairie en lieu de commerce. Mais l'avantage, c'est qu'on peut entrer maintenant, on peut rester, on peut s'asseoir, on peut prendre un café, des choses, et faire une sorte d'expérience proustienne, de s'asseoir là où était Peggy, imaginer les gens qui venaient. On sait que tous les jeudis, il y avait des amis ou des collaborateurs qui venaient, qui parlaient. On sait qu'il y a l'administrateur. Il y a un ami, Joseph Lotte, qui venait. Ils ont eu des très belles discussions. Quoi. Donc, on peut y aller, on peut s'asseoir et on peut imaginer toute cette vie des Cahiers de la Quinzaine.
Rémi, Carlu.
Oui, moi, je voudrais vous parler du style de Peggy qui est si caractéristique, ces ressassements, ces vagues qui paraissent infinies parfois à la lecture. Est-ce que ce style, il a trouvé ce ton et ce style dès le départ, et est-ce qu'on le retrouve dès ses premiers textes, et ce qui ferait ce qui donnerait une unité aussi stylistique à son œuvre, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est élaboré, qui est venu avec le temps?
Non, c'est quelque chose qu'on retrouve dès le début. Alors, pas exactement pareil. Alors moi, je peux dire, mon expérience de lecteur, j'ai découvert Peggy avec le Mystère des Saints Innocents, donc c'est cette poésie aussi avec ses répétitions, ses variations. D'ailleurs, comme dit Peggy, il n'y a jamais une seule répétition dans son œuvre, il dit. Et si on est attentif, on voit que c'est jamais exactement la même phrase. Parfois, il y a un petit mot qui change, une virgule, une majuscule. Oui. Et de fait, c'est jamais exactement pareil. Et moi, donc, mon expérience qui m'a beaucoup marqué, c'est que quand j'ai commencé ma thèse, ma directrice m'a dit, écoutez, lisez tout. Voilà, prenez une année pour lire tout. Bon, je n'ai pas tout lu, mais moi, j'ai commencé depuis le début, les premiers textes. Et j'ai trouvé dans les premiers textes la même authenticité, la même intégrité et quelque chose du style aussi. Ce style qui, au fond, est un style de la marche. Peggy dit quelque part, à la fin d'un de ses dialogues de jeunesse, il est temps de conclure et puis il dit non, ne concluons pas. Parce que conclure, c'est mettre un terme alors que les choses n'ont jamais de terme. Et lui, c'est vraiment une écriture de la marche. On fait un pas, on fait encore un pas, on avance. Mmh. Et le processus fait partie aussi de la chose.
De la chose, oui.
Pour ça que Proust ne comprenait pas, il disait mais enfin, il faut qu'il arrive à une formule finale. Non, ouais. Enfin, Peggy dit non, c'est pas que la formule finale, c'est toute cette marche, qui est en fait une marche durant laquelle lui, il nous prend avec lui, on marche avec lui et petit à petit on avance. Et c'est un peu comme, ouais, c'est quand on marche, on voit différentes choses sur le paysage. Et avec Peggy, c'est ça, petit à petit, on découvre des nouvelles choses sur le paysage. Et oui, depuis le début, il y a quelque chose de ça.
Marc Aubregon.
Oui, Peggy, c'est aussi l'époque, c'est la grande époque du roman. Or, Peggy n'a écrit aucun roman, à ma connaissance. Est-ce qu'on sait pourquoi ? Est-ce qu'on sait quelles furent ses relations avec les grands romanciers catholiques, comme Barbet, Blois ou Huysmans, par exemple ?
Ah, effectivement, c'est une bonne question. Pourquoi il n'écrit pas de roman ? Alors, j'ai participé à un colloque à la Sorbonne sur Peggy et les images au mois d'octobre, et j'avais réalisé que Peggy, dès sa toute jeunesse, il est très attentif au reflet fidèle. Voilà. Quand il était petit, il faisait des aquarelles très belles, mais qui sont exactement des représentations parfaites des bords de Loire ou de la maison à côté d'où il habitait. Et moi, j'enseigne, j'ai des collégiens, et souvent, ils aiment dessiner des monstres, des monstres fantastiques, mais Peggy, non. Lui, c'était vraiment la reproduction exacte. Et quand il se met à écrire, c'est pareil aussi. C'est... qui rendent compte de la vie politique, qui rendent compte de la vie de Jeanne d'Arc, de son idéal, il y a ce souci de la fidélité.
Ce qu'on dit un peu janséniste, en fait, pour le coup.
Oui, alors lui était quand même assez loin du jansénisme, mais vraiment ce sens de la fidélité, je pense que le mot c'est la fidélité, être fidèle au réel. C'est pas nous qui imposons le réel, mais c'est le réel, il faut l'accueillir et il faut en rendre compte. Il n'était pas en contact avec Barbet. Blois, donc il y avait Maritain qui essayait de faire un lien avec Blois, mais pour Peggy, c'est cette vision de Blois, de grande catastrophe apocalyptique. Voilà, lui, il aime pas du tout. Il a dit, même à un moment, il est même un peu vulgaire, il dit, enfin, ce vieux con de Blois, il comprend rien. Il sait pas qu'il y a Jeanne d'Arc et Saint-Louis qui protègent Paris. Enfin, voilà, ils ont une autre vision, une vision plutôt de... du soutien du ciel dans le monde actuel. Mais il a été en contact avec Alain Fournier, qui était un jeune journaliste qui arrive à Paris et qui contacte Peggy. Ils ont une très belle amitié. Ils sont allés ensemble à Chartres. Quand ils vont en Chartres, la première journée, c'est avec Alain Fournier. Et tout au long de la rédaction du Grand Mône, Alain Fournier lui envoie les épreuves du Grand Mône. Et ce qu'on sait par leur échange de lettres, c'est que cette histoire d'un amour et d'un renoncement qu'on a dans le Grand Mône est quelque chose qui Peggy le touche aussi profondément pour sa propre histoire. À un moment, il dit à Alain Fournier qu'il trouve que c'est un peu trop sensible, enfin un peu trop charnel, un peu comme ça. Et Alain Fournier lui dit « Mais si vous saviez quelle souffrance il y a derrière, quelle souffrance il y a derrière ?»
Rémi lui, Carlu. Plus ou moins pris, il me semble, puisqu'il va tomber amoureux d'une femme, mais puisqu'il est marié, il va rester fidèle et donc il va vivre un peu un amour contrarié. D'une certaine...
Tout à
Cette
fait,
douleur, ouais. Il va un peu l'éprouver. Je voulais rebondir sur ce que vous disiez sur Blois. Peut-être en contraste, justement, quelle est la personnalité, le caractère de Peggy ? Est-ce que c'est un optimiste ? À quoi il ressemblait sa personnalité ?
Ah oui. Bah déjà, physiquement, il n'était pas très grand. On voit sur les photos, il jouait au rugby. D'ailleurs, il y avait une équipe de rugby avec entre écrivains. Il y avait Giraudoux, ils étaient d'autres. Il n'était pas très grand. Je pense que c'était une sorte un peu de taureau, quelqu'un très...
Nerveux.
peut-être nerveux, virulent. Bon, il avait beaucoup d'amis, mais puis il rompait les amitiés. Il était...
Une radicalité.
Je pense qu'il ne devait pas être... Ouais, une radicalité. Ouais. Il devait pas être très commode. Voilà. Je pense qu'il ne devait pas être très commode à vivre. Oui, je pense qu'il devait souffrir d'une tension entre cet idéal, une grande fraternité universelle, et puis des difficultés de vivre cette fraternité réellement avec les personnes qui sont à côté. Mais je pense aussi que très souvent, il a dû être déçu par des camarades de combat qui petit à petit ont abandonné les combats ou des compromissions, bon, en particulier Jaurès, qu'il a beaucoup déçu, d'autres hommes politiques. tous ceux qui étaient avec lui dans l'affaire Dreyfus, qui petit à petit ensuite ont utilisé l'affaire Dreyfus pour leur carrière personnelle.
Mmh. Et dont Jaurès, avec lequel il s'est... contre lequel il s'est plus ou moins retourné, je crois, non ?
Oui, c'est ça. C'est en lien avec la première guerre où Jaurès était très pacifiste. Peggy était un petit peu plus réservé.
Mais ça, on en reparlera justement un peu après de la guerre, parce que c'est un passage important, même fondamental. Mais vous parliez justement de son socialisme, de son idéal, et en même temps de sa prise de distance avec l'Église. Mais vous écrivez qu'il y a un tournant fondamental qui va, je vous cite, préparer l'heure où le socialisme va retrouver les voies chrétiennes, de la chrétienté plutôt, c'est l'Antiquité. Alors quel est le rôle de l'Antiquité dans le retour à la chrétienté de pays ?
Ah oui, c'est une question effectivement très, très, très intéressante. Vers 1905, Peggy est de plus en plus déçu par le socialisme institutionnel, il prend distance. Et à cette même période, il se replonge dans les textes de l'Antiquité, du fait aussi que ses enfants étudient le grec. Donc il relit, il fait des versions, des thèmes avec ses enfants. Et deux œuvres le marquent principalement. Premier, c'est Œdipe Roy, la figure d'Œdipe qui a un rôle de médiateur. D'une part, Œdipe intercède pour son peuple devant les dieux, mais ça finit mal pour Œdipe. Ça finit mal, on découvre tous ses crimes. Il finit sa vie comme un misérable. Et une fois qu'il est misérable, il est à nouveau un représentant des dieux, vu qu'il n'a plus de maison sur place, sur terre, il n'est plus accueilli nulle part, il n'est plus qu'un un hôte. Voilà. Il vit dans la maison de Zeus, et c'est un représentant des dieux. Donc cette figure de celui qui était intermédiaire entre les hommes et Dieu, le conduit en direction du Christ, qui lui aussi est figure qui intercède auprès de Dieu au nom des hommes, et inversement, qui représente Dieu auprès des hommes, et qui termine dans une déchéance, dans la souffrance et dans la mort. Donc Œdipe comme figure christique, déjà, comme figure christique. Et deuxième, le retour à Homère, à l'Antiquité, la figure du héros, du héros qui meurt jeune, qui lui aussi une figure du Christ, qui meurt à 33 ans. Et cette idée que l'Antiquité, c'est un moment où l'humanité a vécu une pureté, en un sens, sans Dieu. Enfin, elle nous présente ce qu'il y a de mieux du point de vue humain sans Dieu. Et quand il reviendra à l'approfondissement au christianisme, il nous dira pourquoi il faut revenir aux antiques, pourquoi c'est important, mais parce que nous aussi, nous sommes des hommes. Enfin, le chrétien, nul ne n'est chrétien. Nous sommes des hommes, la grâce nous habite, mais nous sommes humains. La grâce suppose la nature, comme on disait aux médiévales et les médiévaux. Il faut que cette nature donne le meilleur d'elle-même. Plus la nature donne le meilleur d'elle-même, plus la grâce pourra faire de grandes choses. Mmh. Et où voit-on cette humanité qui est au plus beau d'elle-même ? C'est dans l'Antiquité. C'est Homère, c'est Sophocle, c'est ces écrivains. Et il dira un moment, dans son œuvre, celui qui n'a pas d'âme d'hier, comment aura-t-il une âme aujourd'hui ? Les antiques nous transmettent notre ancienne âme et nous permettent d'être nous-mêmes plus hommes, plus riches en humanité. Voilà. Et plus nous sommes riches en humanité, plus la grâce pourra faire des grandes choses.
Mmh. Alors, justement, vous parliez de la figure du héros, d'Homère. Vous me parlez un peu plus tôt de ses disputes parce que de sa radicalité, son intransigeance, et peut-être que lui n'a pas bougé, que les autres changeaient, notamment avec Jaurès sur le pacifisme. Donc la guerre devient en 13-14 un sujet, un vrai sujet, et vous écrivez qu'il justement il reproche au pacifisme, donc notamment à Jaurès, ce qu'il reprochait aux anti-Dreyfusards. Alors c'est-à-dire quelle est la logique commune entre les pacifistes et les anti-Dreyfusards?
Ce qu'il reproche à Jaurès, c'est de croire que le pacifisme qu'il a, lui, se retrouve aussi en Allemagne. Il pense que si les ouvriers français sont pacifistes, les ouvriers allemands aussi vont rester pacifistes. Mais là, ils disent non, attention, c'est une erreur, ça. C'est une erreur. Les ouvriers allemands, ils vont abandonner le pacifisme pour nous attaquer. Et donc, c'est un manque de responsabilité, c'est un manque de réalisme même, que de projeter sur les autres notre propre pensée. Et oui, et puis l'idée aussi que de André Fusisme, il disait une seule erreur met à nu le pacte social. Voilà, une seule faute. Il faut une intégrité chez tout le monde. Voilà. Nous-mêmes, nous devons être intègres, nous devons défendre notre pays. Et on a en face de nous des gens qui ne vivent pas de cette intégrité. Et donc, il faut accepter aussi que nous ne sommes pas dans un monde idéal. Nous avons en face de nous des agresseurs, il faut se défendre.
Alors justement, en août 14, Peggy part sur le front. Dans quel état d'esprit il part? Qu'est-ce que la France pour lui? C'est géographique, territorial, historique, culturel, spirituel, un mélange de tout ça?
Eh bien, pour lui, la France, c'est un pays, il dit quelque part, qui a une double vocation. Une vocation laïque et une vocation chrétienne. Et c'est toujours une vocation en lien avec la liberté. La liberté, bon, comme on a liberté, égalité, fraternité, c'est cette liberté humaine, donc liberté territoriale, donc un territoire où l'on puisse parler français, où l'on puisse enseigner, où l'on puisse respirer librement. Mais cette liberté est aussi la condition de la grâce. Et là, il y a une vocation spéciale de la France, aux yeux du monde, de montrer que pour être un chrétien, il faut être libre. Voilà, on ne peut pas être chrétien enchaîné, on ne peut pas être chrétien asservi, on ne peut pas être chrétien cléricalisé. Voilà, il faut être un chrétien libre. Donc ça, c'est son idée de la France. Mais lui, il part avec la conviction que la guerre sera courte. Il pense que ça sera quelques semaines, une sorte de guerre éclair, et puis il reviendra. La convocation, l'appel, c'est le 1er août. Il quitte sa famille. Il va à Paris 2 jours pour saluer les amis, surtout ceux avec qui il s'était querellé. Et il dit à Geneviève Favre, qui est la mère de Jacques Maritain, une dame chez qui il allait souvent déjeuner, qui est une sorte de confidente, il lui dit, voilà, je pars pour le désarmement général, pour la dernière des guerres. Et quand je reviendrai, ce que j'écrirai sera encore plus grand que ce que j'ai écrit maintenant. Donc il part avec l'idée qu'il contribue à la paix, avec l'idée qu'après cette guerre, il n'y aura plus de guerre, ça sera un désarmement, et qu'il écrira des choses encore plus grandes.
Il se fera donc tuer le 5 septembre 1914, lors de la bataille de Villeroy.
Tout à fait.
Mais revenons un peu en arrière, le 15 août, vous écrivez, on rapporte qu'il aurait reçu pour la première fois depuis sa jeunesse le sacrement de l'Eucharistie, la réconciliation. Alors, il n'y a pas eu de confirmation et tout des trois sources, comme on est dans le journalisme, qui ont confirmé que c'était vrai. Et moi, ma question, c'est pourquoi ne l'a-t-il pas demandé avant? Pourquoi ce Peggy, ce catholique, ce fervent croyant, ne voulait pas recevoir les sacrements de l'Eucharistie et de la réconciliation avant?
Eh bien, le problème, c'est que lui s'était marié civilement avec la sœur de ce très bon ami Marcel Baudouin qui est décédé. Ils étaient mariés donc volontairement civilement. Ils ont eu des enfants, ils avaient 3 enfants. Au moment de la guerre, elle attend un 4e.
Son fils qu'il ne verra jamais.
Qu'il ne verra jamais, oui, Charles-Pierre. Et quand il revient à la foi chrétienne, sa situation, donc d'un mariage civil mais non religieux, équivaut à un concubinat. Et donc, il est techniquement en état de péché, ce qui fait qu'il ne peut pas recevoir la communion et il ne peut pas recevoir l'absolution. Parce que recevoir l'absolution, c'est à condition qu'il se sépare de sa femme. Et ça, c'était la grande question qui habitait les années de retour à la foi de Peggy, c'est que faire. Ses amis catholiques lui disent, ce que tu vas faire, c'est mariage religieux et baptême des enfants. Mais la femme ne veut pas. Donc, que faire? Il y en a qui disent, mais écoute, tu sais, tu peux te séparer d'elle, vu que tu n'es marié que civilement, tu n'as aucune obligation. Et pour lui, le mariage civil, c'était un réel engagement, d'autant qu'il a fait tout son cœur. Et au fond, il ne voyait pas de solution. C'est aussi à cette époque, sa femme est très contraire à son retour à la foi. À la maison, il y a aussi la belle-mère.
Sa belle-mère, pareil, ils sont pas
la
très
belle-mère, oui,
catho-friendly.
Oui, non, c'était des républicains. Voilà, Troisième République. En plus, il y a le beau-frère à la maison qui ne travaille pas. Et il faut savoir aussi que toute la dot de la femme est allée dans les cahiers de la quinzaine. Oui. Et maintenant, Peggy commence à écrire des textes qui s'appellent « Le mystère des saints innocents »,« Le mystère de la charité de Jeanne d'Arc ». Et là, ils se disent « Mais il est fou, il est en train de nous saborder, qu'est-ce qu'il fait ?» Alors, Peggy demande aux maritains d'aller parler, mais bon, ça fait encore... Bon. Et là, ils se demandent qu'est-ce que je dois faire. Et ce qui est très beau dans cette situation, c'est qu'il ne précipite pas sa décision. Voilà, il accepte la complexité de la chose. En plus, bon, comme on dit, voilà, il tombe amoureux d'une autre jeune femme. Il dit, mais bon, c'est une juive, mais bon. Il la pousse à épouser quelqu'un d'autre, mais quand même, ses sentiments restent. Et alors, il dit, bon, ce que je dois faire, c'est aller à Chartres. Je vais à Chartres. Et là, il prie. Et c'était une expérience spirituelle qui est une des choses les plus belles et qui donne vraiment en cadeau aux générations postérieures. C'est, il a le sentiment, en allant sur la route, en voyant le clocher, d'être transformé, d'être comme un homme nouveau, le sentiment que ses impuretés sont tombées d'un coup. En entrant dans la cathédrale, il dit, voici le lieu du monde où l'âme s'ouvre toute.
Il n'assistera même pas à la grande messe.
Oui, il n'assistera pas, voilà, il ne se sent pas d'assister à la messe. Mmh. Mais là, au pied de la Vierge, il sent la force de pouvoir dire oui. Parce que Chartres, c'est le lieu où il y a la tunique de la Vierge, qu'elle a eue au jour de l'Ascension, quand la Vierge a dit oui à l'ange. Et là, il arrive à dire oui à sa situation. Mais en même temps, il n'a pas de solution concrète. Voilà, tout continue. Et en tout cas, pour moi, personnellement, l'une des plus belles choses de Charles Peggy, c'est d'avoir accepté cette complexité, de ne pas savoir et d'avoir dit je vais à Chartres, je m'en remets. Et ça lui donne la force de continuer, même si rien ne se résout. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup, Nicolas Faguer. Donc, je rappelle votre livre, Peggy, un cœur qui a tant battu chez Salvatore. Donc, évidemment, vous l'aurez compris, chers auditeurs. Précipitez-vous chez votre libraire ou sur les internets pour le commander. Vraiment, même si vous connaissez Peggy, vous découvrirez que vous ne vous connaissez pas si bien que ça. C'est un livre très agréable, passionnant, profond, très bien écrit et avec une approche très originale. Donc voilà, donc achetez-le. Et puis demain matin à votre réveil, vous allez chez votre marchand de journaux puis vous achetez le nouveau numéro de l'Incorrect. Puisque Charles Alloncle est à la une, il accuse l'audiovisuel public. Chers amis, nous on se retrouve la semaine prochaine. Restons courtois, continue demain et après-demain avec Marc Hainaut et Marc Baudrier. Bonne soirée.
Ça suffit maintenant.